Le changement du passé est nécessaire pour deux raisons. L'une est subsidiaire et, pour ainsi dire, préventive. Le membre du parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé, exactement comme il doit être coupé d'avec les pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres et qu'il pense que le niveau moyen du confort s'élève constamment. Mais la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est, de loin, la nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exactes et que les rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de politique. Changer de décision ou même de politique est un aveu de faiblesse. Cette falsification du passé au jour le jour, exécuté par le ministère de la vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'amour. Comme le parti a le contrôle complet de tous les documents et de l'esprit de ses membres, il s'ensuit que le passé est ce que le parti veut qu'il soit. Cela est encore vrai même lorsque sommeil arrive souvent. Un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d'une année. Le parti est, à tous les instants, en possession de la vérité absolue et l'absolu ne peut avoir jamais été différent de ce qu'il est. Le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire. S'assurer que tous les documents s'accordent avec l'orthodoxie du moment n'est qu'un acte mécanique. Il est aussi nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de la manière désirée. Et s'il faut rajuster ses souvenirs ou altérer des documents, il est alors nécessaire d'oublier que l'on a agi ainsi. La manière de s'y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale. En novlangue, cela s'appelle la double pensée. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait, par conséquent, qu'il joue avec la réalité, mais par l'exercice de la double pensée, il se persuade que la réalité n'est pas violée. La double pensée se place au cœur même de l'Ang-Sok, puisque l'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente, tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier tous les faits devenus gênants, puis, lorsque c'est nécessaire, les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile. Nier l'existence d'une réalité objective alors qu'on tient compte de la réalité qu'on nie. Tout cela est d'une indispensable nécessité. Pour se servir même du mot « double pensée », il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée. C'est admettre que l'on modifie la réalité. Par un nouvel acte de double pensée, on efface une connaissance, et ainsi de suite, indéfiniment, avec le mensonge toujours en avance d'un bond sur la vérité. C'est par le moyen de la double pensée que le parti a pu, et pourra, pendant des milliers d'années, arrêter le cours de l'histoire. Pour diriger et continuer à diriger, il faut être capable de modifier le sens de la réalité. Le secret de la domination est d'allier foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé. Il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventèrent et qui savent qu'elle est un vaste système de duperie mentale.